Je dois compter sur mes doigts et mon tour pour dormir.
Émission Araga dirigée par Kamar Idir, ma chronique revue de presse halal sur des sujets haram.
Bonjour, salam. Radio Galère présente
les Haragas de Marseille.
Patatou, patatou, patatou. Bienvenue dans l'émission Haragas en compagnie de Kamar et Arslan. Haragas, patatou,
patatou,
patatou, patatou,
patatou, rien.
Revue de presse
Bled Miki ou le Khorté
Rقم الهاتف تليفوني 04-91-08-28-10 04-91-08-28-10 Et ça se passe tous les jeudis de 16h à 18h.
Alaykoum salam, khouya Kamar, où est-ce que tu as?
Très bien, la base. Alors, comment t'as passé ta semaine?
Ça va, comme tu as fait un peu.
Qui est mal l'Algérie?
Tout à fait.
Émission Araga dirigée par Kamar Idir.
Salam alaikum, marakoum à Jumaat al-Haraga Nafi Da'at Galer.
L'émission Haraga, la voix des sans-voix, des échoués de la vie. Elle fait appel à la rue qui la interpelle.
Et vous allez vous régaler avec vos micros trottoirs.
C'est une revue de presse halal sur des sujets haram. Wallah al-Azim.
N'oubliez pas, vous êtes avec les Haragas de Marseille. Bakhir al-Haraga.
L'émission phare de Radio Galère, tous les jeudis.
De 16 à 18h, nous sommes à la Rabia, à la Rabia, à la Rabia. C'est Idir qui vous parle. J'espère que vous vous portez bien et que votre famille, bien sûr, aussi. On est le jeudi 22 mai 2025 et nous sommes heureux d'être parmi vous. Ya al-Baraka. Rapidement, on va commencer par les coulisses de la manif palestinienne du dimanche. Je vous laisse suivre les entretiens réalisés par notre collègue Carpentier. Prise de sang, Khokoum Idir. Yerbah Rabah.
Ouais, bon, bonjour d'abord. On a été mis au courant de ce qui s'est passé à Starbucks parce qu'il y a un certain nombre d'employés qui ont qu'on donnait les, grosso modo ce qu'il y a à être jeté et qui ont été licenciés pour ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu?
Bonjour, je m'appelle Sabri et voilà, je travaille, on va dire, auprès d'une société, un groupe qui s'appelle SSP. On va dire qu'il y a le monopole sur l'aéroport Marseille-Provence. Et je suis affecté, on va dire, au service de chez Starbucks et mes confrères chez Prêt à Manger. Ça fait pratiquement 30 ans que je travaille sur l'aéroport pour le groupe SSP, qui eux sont arrivés en 2017, qui nous ont repris, bien entendu. En fait, on avait pour manière, on va dire, qui s'appelle coutumière, de distribuer les invendus à la fin de service. Les invendus étaient destinés à la poubelle. C'était où on les met à la poubelle ou on les distribue. Moi, j'ai fait le choix avec mes confrères de les distribuer de manière, on va dire, formelle vis-à-vis de ma direction, parce qu'elle était au courant. On va dire, ça fait quand même quelques décennies qu'on distribue les invendus à des personnes en difficulté, notamment des SDF, des personnes de la plateforme aéroport. Et si je trouve personne sur la plateforme aéroport, ça m'est arrivé d'aller à la gare Saint-Charles décharger, on va dire, des denrées, mais pas mal de denrées. Ou sinon, ça allait à la poubelle. On a eu le directeur adjoint des opérations du groupe SSP qui est arrivé en septembre, qui pour lui, on va dire, a trouvé ça aberrant de donner, au lieu, de donner les invendus. Pour lui, il fallait les jeter. Donc on a été licencié au motif d'avoir distribué des invendus qui étaient destinés à la poubelle. Voilà. Et c'est pour vous dire qu'en fait, en France, on n'est plus protégé. On va dire des gestes de solidarité aujourd'hui sont sanctionnés. Regardez. Pratiquement 3 décennies, je me retrouve à la rue parce que j'ai distribué des invendus à des personnes en difficulté. Vous trouvez ça comment, vous ?
Mais je voulais demander quel était l'argument justement de la direction.
L'argument, ils disent qu'en fait, on n'a pas respecté le règlement. À savoir un truc, c'est que, on va dire, les lois ont changé depuis 2016, ont été modifiées en 2020. Et en fait, ces lois stipulent bien qu'en fait, tous les invendus, il faut en faire don. Et c'est ce que nous, on a mis en pratique, mais sans la loi, on va dire, on a toujours eu ce côté humain. Il y a la loi, ok, mais il y a quand même le côté moral. Vous auriez fait quoi, vous, à ma place ? Je vous repose la question. Vous auriez préféré jeter ou donner ?
C'est sûr, quand on voit des gens mourir de faim autour de nous, on ne va pas jeter de la nourriture, c'est très clair.
À savoir un truc, c'est qu'avec mes collègues, aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une situation assez contraignante, on va dire, morale et financière aussi. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la porte pour avoir fait des bons gestes humanitaires, des gestes solidaires. C'est la France.
Mais bon, il y a quand même des recours. Il y a le prud'homme, qu'est-ce que vous envisagez en fait maintenant ?
Est-ce que pour vous, le prud'homme, c'est assez ? Est-ce que c'est assez ? C'est nous qu'on aurait dû être sanctionnés ou le dirigeant, lui, qui nous a mis à la porte ?
Non, mais ça peut être un palier pour recouvrer vos droits, quoi. C'est ça.
Ok, il y aura le prud'homme, mais je ne vous cache pas que notre dignité à nous, il faut qu'elle soit lavée. Il faut qu'elle soit lavée, notre honneur, il faut qu'il soit lavé. On a quand même sali notre honneur en nous disant qu'on trafiquait les invendus. Vous imaginez jusqu'à où ça a été ? Imaginez-vous, on va dire, nous, psychologiquement, comment on le prend, comment on le vit. C'est pas facile, hein ? Surtout quand on vous accuse à tort.
En un mot, on vous traite de voleurs.
On nous traite de trafiquants de sandwichs invendus.
Bon, en dehors du côté grotesque de l'affaire, est-ce que dans l'aéroport, il y a une solidarité d'autres salariés à votre égard ?
Ils ne peuvent pas à ce jour, ils ne peuvent pas, ils ont peur des représailles. On leur met la pression, c'est d'après leur dire à eux. Hein. Ils nous disent qu'en fait, ils ne peuvent même pas sortir nos noms. Ils disent qu'on leur a mis la pression. La direction leur a mis la pression. C'est leur dire à eux, je vous dis. Le groupe SSP, les collègues de travail, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas ni se mouiller, ni parler à des journalistes. Il semblerait, ils me disent qu'ils ont été menacés par la direction.
Et je ne sais pas, à court terme, vous envisagez de faire des actions de...
Il y aura des actions avec la CGT, des manifestations, oui, certainement. C'est la CGT qui nous soutient beaucoup. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier, on va dire, toutes les associations et essentiellement les élus de Marseille qui nous ont soutenus pour nos actions parce que nos actions sont justes. Je tiens à les remercier. Je leur dis encore mille merci.
Super.
Merci.
Bon courage.
Au revoir. Merci infiniment. Merci.
et je suis organisateur à Tokyo pour Palestinians of Japan.
Okay.
Donc notamment derrière la Palestine.
Ouais.
On se désole un peu qu'il y ait finalement si peu de monde dans les manifestations qui se déroulent
tous
les dimanches.
C'est pareil. Hein. On aimerait qu'il y ait tout le temps plus de monde parce que ça concerne tout le monde. On dit le peuple palestinien aujourd'hui, demain, ce sera qui? Ils exportent leur technique. Regardez ce qui se passe. Inde, Pakistan, les Indiens au Cachemire, ce qu'ils font. L'Inde, ce que fait au Cachemire, genre ils collaborent avec Israël, ils apprennent des techniques d'Israël. Aux États-Unis, Cop City, IDF, le Tzal, entraîne les policiers états-uniens. Donc, ça s'exporte de partout. Il faudrait que tout le monde se sente concerné, parce que tout le monde est concerné. Ça touche à notre argent, parce qu'on finance quoi? On finance des guerres, on finance l'État d'Israël, on essaye de le défendre avec nos taxes qui paient pour tous ces policiers qui sont là pour supprimer notre liberté d'expression et tout. Donc oui, on aimerait qu'il y ait plus de monde parce que tout le monde devrait être dans les rues. C'est inacceptable. Voir des enfants avec la tête arrachée par des bombes le matin quand on se lève, on ne peut pas continuer à vivre normalement. Genre, il n'y a pas de vie comme tous les jours, de business as usual, quand il y a un génocide qu'on peut voir directement en live sur nos réseaux sociaux, sur nos téléphones.
Donc vous appelez la guerre contre les Palestiniens un génocide aujourd'hui?
Bien entendu, mais il n'y a aucun doute. Là, c'est un génocide. Genre, ils le disent eux-mêmes. Ils sont là pour le nettoyage ethnique de la Palestine. Ils le disent, les politiciens. Quand on regarde les journaux, les médias de l'État sioniste, ils le disent ouvertement. Les médias occidentaux, ils cachent ce qu'eux-mêmes disent. Genre, ils essayent de le transformer, mais ils sont honnêtes avec ça. Ils veulent détruire Gaza, ils veulent que tous les Palestiniens partent. La Cisjordanie, pareil, ils volent des terres. Ils essayent de prendre toutes les terres de Palestine, de Syrie, du Liban, avec leur grand Greater Israel, grand Israël. Voilà, donc il n'y a aucun doute sur le fait que je ne vois pas pourquoi c'est encore un débat. Je sais qu'en France, ça l'est encore, mais pour moi, il n'y a rien. C'est comme, est-ce que ça, c'est une route, quoi? Voilà, c'est évident. Yeah. Nous marchons sur la route.
Et il y avait une proposition d'un certain nombre de députés insoumis, pour ne pas les citer, proposant d'interdire l'espace aérien aux avions israéliens.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une mesure efficace?
Ben, ce ne sera pas assez, mais c'est une chose à faire de toute façon. C'est entre d'autres choses. Il faut rompre tout lien avec l'État sioniste, tout lien, toute coopération économique. Il faut mettre des sanctions. Les États ont été très rapides à réagir par rapport à la Russie, à vraiment sanctionner la Russie et tout, mais par rapport à l'Ukraine. Mais personne ne fait rien par rapport à la Palestine, parce que clairement, l'État sioniste, c'est la branche impérialiste. C'est une branche impérialiste, la branche de l'Empire occidental au Proche-Orient, c'est ça. Donc forcément, ils vont pas aller, c'est dans leur intérêt de garder l'État sioniste genre en état de marche, quoi.
Mais Netanyahou est déclaré quand même dans beaucoup d'États comme criminel de guerre. Vous imaginez la possibilité, je ne sais pas, de l'arrêter dans un des États européens, notamment?
C'est inadmissible. C'est inadmissible. Les États européens se croient au-dessus du droit international maintenant. Ça y est, genre, ils vont pas respecter le droit international parce que ça les arrange pas. Non, c'est inadmissible. Genre, ils devraient l'arrêter, le passer. S'ils pensent qu'il n'y a pas un génocide, que cette guerre, comme ils l'appellent, est valide et qu'il n'y a aucun problème, pourquoi est-ce qu'ils ne l'emmènent pas devant la Cour pénale internationale? Comme ça, ils se justifieront. Ils diront « Ah, ok, il n'y a rien ». Parce qu'ils savent que c'est un génocide. Et ils savent qu'ils sont complices, et voire plus. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie qu'ils soient jugés, parce qu'ils savent que ça va aller jusqu'à eux.
Et sinon, bon, est-ce que vous avez peut-être des pistes comme ça pour qu'on puisse agir, que les peuples, les différents peuples qui n'acceptent pas cette situation puisse agir?
Oui, alors il faut plusieurs choses. De manière générale, il faut prendre plus de risques, parce que clairement, si on veut leur créer des dommages, des dégâts,
il faut prendre ce risque et enfin, il faut mettre la cause avant nos propres intérêts, parce que sans ça, on n'arrivera nulle part. Faire des manifestations autorisées, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Ça fait 18 mois que partout dans le monde, les gens continuent de faire plein de trucs différents, genre des manifestations, des trucs culturels, pour essayer de faire en sorte que plus de gens soient engagés ou au courant de ce qui se passe, pour faire pression sur les gouvernements. Mais le truc, c'est que ces gouvernements sont, et ces États sont fondamentalement... par exemple, la France, c'est un pays colon. Il a tous ses intérêts, l'État français a tous ses intérêts dans la colonisation, l'Empire. Par exemple, là, en Cisjordanie, il y a des terres qui sont donc volées et qui sont financées par l'Union européenne pour y faire, pour y planter des vignes et y faire du vin, pour le vendre en Europe. Donc ça, c'est une info, c'est pas encore hyper connu. Je suis en contact avec des gens en Cisjordanie qui m'ont avoué ça. Et donc voilà, pour montrer que pas juste ça, mais il y a tellement d'intérêts qu'il faut aller toucher ces intérêts directement. Si on veut faire pression à Israël, il faut se rendre compte que Israël, ça fait partie de l'Empire, ça fait partie des intérêts occidentaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Et donc, il faut considérer la France comme si c'était Israël et la toucher directement dans tous ses intérêts pour lui faire une pression, comme vous savez, BDS, c'est pour faire pression économiquement pour qu'Israël cesse son apartheid, sa colonisation, etc. Et bien la France, il faut lui faire pareil, il faut la toucher directement là où ça fait mal pour lui faire pression. On ne peut pas lui demander, comme disait Audre Lorde, on ne peut pas casser la maison du maître, désolé, je ne connais qu'en anglais, mais on ne peut pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Voilà, il faut y aller avec force. Et aussi, désolé, mes réponses sont super longues, le gros problème de manière générale, c'est l'ego des gens. Il y a trop de divisions parmi les activistes et tout. Il y a trop de gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Il faut prendre du recul et se rendre compte qu'on est là pour la Palestine, pour les Palestiniens, et que nos intérêts passent après, notre ego passe après, et il faut y aller à fond. Désolé, je me perds dans mes réponses, mais voilà quoi. Genre, y aller à fond, prendre plus de risques et y aller directement quoi.
Bon, une dernière question, il y a un débat un peu délirant quoi. Sur un état, deux états, on en est où? Qu'est-ce qui est encore possible de fait?
Alors, tout est possible, forcément, mais selon moi, et je dis ça parce que c'est les Palestiniens, la lutte palestinienne qui le dit, il y a des principes, ce sont les principes du Tawabet, qui disent que c'est un état palestinien du fleuve à la mer. Et il n'y a pas de doute sur ça, aucune normalisation avec l'État sioniste. Il n'y aura pas, s'il y a deux États, il n'y a pas de droit au retour. Et les millions de Palestiniens qui ont été virés pendant la Nakba, ils font quoi? Donc deux États, ça ne marchera pas par rapport à ça, déjà. Et de toute façon, deux États, ça a toujours été un mensonge pour garder le statu quo, pour continuer la colonisation. Donc un État, oui. De toute façon, comme en Algérie, les Algériens n'ont pas viré les pieds noirs, les Français, les Européens à l'époque. C'est eux qui sont partis parce qu'ils n'ont pas supporté d'avoir des Arabes, des musulmans, donc des Algériens, avec des, genre à égalité avec eux, quoi, avec des droits, autant de droits qu'eux. Ils n'ont pas supporté ça parce qu'ils sont par essence colons, donc ils vivent, ils existent dans ce rapport de force. Donc supérieurs, ils sont supérieurs à l'Algérien, donc ils profitent de tout ça, leur existence est basée sur ça, donc ils n'ont pas supporté, ils sont partis. Et bien ce sera la même chose, la Palestine sera libérée et les colons partiront d'eux-mêmes parce qu'ils ne supporteront pas d'être avec des Palestiniens au même niveau, parce qu'ils se croient élus, ils se croient supérieurs, et c'est inadmissible, nous sommes tous égaux, bien entendu. C'est bizarre qu'on doive le répéter en 2025 comme si c'était quelque chose, une nouvelle découverte. Voilà. Et de toute façon, dire aux aux Palestiniens de vivre avec des sionistes, des Israéliens, pour moi, c'est comme si on disait « Tiens, toi qui as été violé, vis avec ton violeur et pardonne-lui. » Voilà, non, c'est inadmissible. Voilà.
Okay. Rappelez-moi votre prénom et mouvement.
Ok, je suis Ayn et je suis organisateur à Tokyo pour Palestinians of Japan.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.
16 years. Manners United.
Bien sûr, ce qu'on appelle en France les Chibani, ces vieux immigrés maghrébins oubliés de tous, ont fini de même par se faire un peu entendre. Mais qui connaît les Chibaniya ou Chibani au féminin? Quelles bonnes idées de leur donner parole et de faire parler quelques-unes d'elles. Nées en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, dans les années 40, elles sont arrivées en France au début des années 60, très jeunes. Déjà mariées, certaines avaient des enfants, des vies à première vue tellement semblables. La solitude des débuts en France, la difficulté de ne savoir ni lire, ni écrire, ni parler la langue, horizon limité au mari, aux enfants, à la maison. Pourtant, malgré l'étroitesse de leur univers, encore réduit par l'exil en France, elles témoignent des grands événements de leur temps et d'abord la guerre de 39-45. Pour cette femme, née en 34, par exemple, la fermeture de l'école à cause de la guerre explique pourquoi elle n'a pas appris à lire et écrire et pourquoi son père ne la laissait pas sortir de la maison. Une autre parle de son mari appelé en Allemagne et Rachida ne connaissait pas son frère, militaire dans l'armée française à Niort pendant la guerre. Et Mamia raconte que ses parents ont dû fuir Marseille pour l'Algérie à cause de la guerre et de la guerre avec les Allemands. Paradoxalement, la guerre d'Algérie est moins évoquée. Peut-être parce que trop présente dans leur destinée. On est frappé par la retenue, la grande pudeur de ces femmes quand elles disent leurs souffrances et ce qu'elles ne parviennent pas à mettre des mots sur leur vécu. La souffrance, quand elles l'expriment, c'est d'abord la solitude de leur vie en France. Surtout au début, sans famille ni amis. Et aujourd'hui, on a choisi Baya Layarhama pour lui rendre hommage. Alors, écoutez Baya pendant toutes ces 30 minutes. Bonne écoute. L'Algérie est moins évoquée. Peut-être parce que trop présente dans leur destinée. On est frappé par la retenue, la grande pudeur de ces femmes quand elles disent leurs souffrances et ce qu'elles ne parviennent pas à mettre des mots sur leur vécu. La souffrance, quand elles l'expriment, c'est d'abord la solitude de leur vie en France, surtout au début sans famille ni amis. Et aujourd'hui, on a choisi Baya Layarhama pour lui rendre hommage. Alors écoutez Baya, avec plus de 30 minutes, bonne écoute.
ولا انا متواشلي بيا مغروم طايح في الحب نيران قلبي قويا تبعني بالذهب ولا تنطف لا صبية ما نلت ليل التعب والله يا يعني معلية بنت قايد العرب بزازي الهوضة منية عندكش للهاج الطب يا طفلة قبل لا تفوت فيا
Je suis venue en France, je suis venue habiter avec ma belle-mère. à Saint-Gabriel, Gros Postros. C'est un bel appartement, il y avait de tout, hein, et il n'y a rien. Jamais j'habitais les Bougainvilles, comme vous dites. Ça, je ne le connais pas. Toujours j'habitais dans les belles maisons. Après, j'ai déménagé. J'ai habité le Calme, en ville. Le Carme, on l'a commandé, le Carme. J'habitais là-bas combien? J'habitais, je crois, 3 ans, 4 ans. Après, j'habitais l'Estac. L'usine, là, comment dire, Curmen, que ça s'appelle comment. J'habitais là un peu, pas beaucoup. Après, je suis venue à la paternelle, parce que là, c'est la femme qui il veut s'appartement pour sa fille. J'ai déménagé à la paternelle. J'ai resté 4 ans ou 5 ans, j'ai pas beaucoup. Après, Madame Pelper, vous connaissez Madame Pelper avant, elle s'occupait des musulmans et tout. J'ai demandé, elle m'a donné la maison à la Bisserine. Et la Bisserine, j'ai resté 30 ans, presque 30 ans. Après, je suis venue ici habiter là. Mmh. Voilà.
Et comment c'était l'ambiance à la Bisserine à l'époque?
Ah, c'est très bien. Oui, oui, avant, c'est très bien. On est tous khawa, on est tous frères et sœurs. On était comme la famille, hein. Les petits vont à l'école, ils viennent chez moi, ils mangent, ils goûtent, ils vont à l'école. Il était très bien la Bisserine, la main dans la main toujours, vous aimez toujours. Mais maintenant, je ne sais pas comment, je ne sais pas la Bisserine comment ça va, mais avant c'est très bien comme quartier.
Comment vous vous sentez en France? Vous vous sentez française ici ou algérienne et française en même temps, deux cultures?
Deux cultures, oui. Ici, je me sens français. Et quand je vais algérienne, je suis algérienne là-bas. Même ils me disent l'immigré, mais je suis algérienne quand même.
Vous acceptez ça?
J'accepte, on a l'habitude. Alors ici, ils nous disent immigré, là-bas, immigré, pareil. On a l'habitude. Mmh. Une fois qu'on marche droit, qu'on a la tête sur les épaules, les gens, ils disent qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça qui compte, hein. C'est la tête.
Justement, vous avez connu M. Thier, là?
Oui, je connais M. Thier.
Continue un peu.
M. Thier, avant, il avait un magasin. Avant, à la Bisserine, quand on habitait la Bisserine, il y avait un château. Qu'est-ce qu'il y avait un magasin? M. Sigrati. Il a fait un magasin dans le château. C'est là-bas qu'on va acheter les commissions. Après, ils ont demeuré, ils ont cassé le château. Et M. Thier, il avait un magasin. Il vendait des commissions, il vendait des bonbons. C'est un brave homme, il parle bien, il est gentil avec tout le monde, il est poli avec tout le monde. Et il rend service à tout le monde chez lui. On le connaît là-bas dans le quartier, on achète chez lui les commissions. Oui, parce qu'il a le magasin. Quand on a le magasin, on connaît le monde entier. Tout le monde vient se servir à manger, la limonade, le coca, les gâteaux, les bonbons. Eh oui, un magasin et connaît le monde entier. Hein.
Voilà. Et comment vous fêtiez l'Aïd à l'époque? Comment c'était l'Aïd des moutons?
L'Aïd des moutons, on le fait en famille.
Ça.
Voilà. On tient les moutons dans la ferme, on fait la fête en famille. Et voilà, et ça continue toujours pareil, voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer dans les maisons. Dans les fermes. Dans les fermes, on a le droit. On fait chaque l'Aïd, l'Aïd al-Kbir, l'Aïd al-Sghir, on va chez les amis, on raffre l'Hom, on va chez l'Qbour, on va chez l'Qbour. Voilà. Après, on revient à la maison entre familles. Ça continue comme ça. On fait les repas, on fait... Entre les petits-enfants, les enfants, on est entouré. C'est ça l'Aïd. Ici, au Algérie, ça marche pareil. Voilà, kif-kif. Où tu vas, ça marche pareil. Quelqu'un qui veut faire les choses comme on a l'habitude de faire, oui, il va, il les fait. Mais qui va droit, qui reste tranquille, qui ne fait pas des conneries. Non, il y a une année, quand je suis venue la première année, j'ai resté 15 ans, je ne suis pas retournée. 15 ans. Jusqu'à cesser le feu, après je retourne à l'Algérie. Et maintenant j'y vais de temps en temps, tous les deux ans, tous les ans. Ça met. Je sais pas, comme il vient le temps. C'est mon temps général, surtout si je suis toujours malade. Alors je ne suis pas libre, j'ai à faire ce que je veux, voyager comme je veux. C'est pas comme avant. Maintenant, on est renfermé dans la maison. Il y a l'infirmière qui vient l'après-midi, le matin. La femme de ménage, elle vient deux fois par semaine. Et moi, je suis dans le lit. J'y tourne, je retourne dans mon lit. J'arrive pas à avancer. Et quand on arrive en âge, c'est pas facile. Surtout quand on est mal. Moi, je retourne laisser mes enfants là. Jamais de la vie. Ah, ça, jamais de la vie. Mon mari, avant, quand il était à la retraite, et après la retraite, il m'a dit, rentre à l'Algérie. J'ai dit, là, tu veux rentrer, tu rentres tout seul. Je vais aller en vacances, un mois, deux mois, mais pour y aller à la maison, je surveille les mères, mes gosses sont là, mes petits-enfants, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Rien que moi et toi, il n'y a pas assez. Alors, le pauvre, regarde, il n'a pas continué, il est mort avant. Et maintenant, je vais à l'Algérie, j'ai mon frère là-bas. Et j'ai mes neveux là-bas, mais ma mère, elle est morte. Mon père, il est mort, il n'y a personne. Alors, mes enfants, derrière petits-enfants, tout le monde, toute la famille, ils sont là. Et je vais y aller pour garder les murs. Les murs, ils sont debout, ils ne tombent pas. Quand on va, on ouvre la porte, ils sont debout. C'est pas vrai, monsieur? Oui. Eh oui. Au malin, mes enfants reviennent, mes petits-enfants reviennent, mes amis reviennent. Qu'est-ce que je veux de plus? Je reste seule, une vieille comme ça, toute seule, c'est pas facile pour le moral. Voilà.
Ici, vous avez un jardin, oui. Et vous manquez que les poules. Est-ce que vous avez pensé à ça ou non?
Mais je sais que ça n'a pas le droit aux poules. Hein. Ah. Il y a des gens, ils ont fait les poulets, ils ont fait les lapins. Et on n'a pas le droit. C'est une cité, là. C'est un lotissement. On ne peut pas suivre tous pareil. On ne peut pas faire autrement. Moi, des fois, ça ne m'intéresse pas. Mmh. J'y vais la poule, je vais l'acheter à la ferme. J'y cours derrière l'épaule dans le jardin. Là, j'arrête pas à courir. Monsieur, il y a tout pris. Tu vas à la ferme, ils te le tuent, ils te le mettent propre. Tu viens, tu ne mets rien que dans la marmite. Pourquoi j'y cours derrière le jardin, derrière l'épaule?
Non, juste pour ne pas rester toute seule, c'est-à-dire. Voilà.
Non, j'ai les amis, j'ai le monde, je suis entourée, non. Moi, tout ça, les animaux. Avant, j'avais un chien. Voilà. Avant, j'avais un chien.
Il s'appelait comment?
Il s'appelle Walter.
Il était bon.
Ah, il est bon. Hein. C'est un sevin. Tu sais, sevin. Hein? Même dans les chiens, il y avait sevin.
Et il gardait bien.
C'est un chien de garde. Hein. Ah, okay. Berger belge.
Ah oui,
c'est un berger belge, il garde. Hein. Personne qui rentre. Hein. Voilà. Et quand elle est morte, ma fille, la pauvre, moi, je ne peux pas me s'occuper des chiens. Avant, quand j'habitais la Bisserine, j'avais un chien. Tout le monde le connaissait. C'était un bon chien. Je le sors et tout. J'ai la force. Mm-hmm. Maintenant, je n'ai pas la force. Et maintenant, quand elle est morte, ma fille, c'est mon fils qui l'a pris. Et quand il vient ici, le pauvre, il n'a pas oublié. Il cherche sa patronne. Il va dans les chambres, il va dans la cave, il va dans le jardin. Il sentit, il vient me taper comme ça. Ça veut dire, où est ma patronne? Je te jure, mon fils, jamais l'a oublié. Et tout le monde pleure. Quand on voit ce chien de ma fille, on dirait que c'est le même jour qu'elle est morte, ma fille. Tout le monde pleure. Parce qu'il comprend terrible. Hein, c'est comme en personne. Voilà. Mais heureusement, il est avec mon fils, il n'est pas malheureux, il est à la campagne, il a l'espace, il court, il est bien, il a bien soigné et tout. Et chaque fois, j'appelle Mouloud et Walter, comme il va, il m'a dit, maman, il va très bien, il ne faut pas penser à lui. C'est comme une personne de la maison, quand les animaux les gardent, c'est comme une personne de la maison. Qu'est-ce que vous voulez, mon fils, je ne peux pas garder les animaux. Un chien, j'adore les chiens, mais je ne peux pas les garder, je n'ai pas de force. J'arrive même pas à tenir à moi et je garde. Je te jure, c'est la vérité. C'est la faute, pas de chance, quand on arrive à la vieillesse, tout est décrale. Tout, la maladie, la tête qu'il travaille, on n'est pas bien, alors on ne peut pas faire autrement.
Bon, on va faire quelques photos et on va.
Voilà, allez, regarde, c'est bien.
Vous êtes belle, avec la robe kabyle.
Ouais. Une robe kabyle. Et cette robe kabyle, eh oui, tout le monde, quand il me voit avec Aya, madame Seba, oui, comme elle est belle ta robe, je dis la vente. Mais moi, j'ai fait bien attention à mes affaires, hein. Je dis la vérité. Ah, je sais, même les choses de la maison, mes affaires à moi-même, ils me disent les gens, prête-moi. J'ai dit, moi, je ne prête rien, je ne prête chez personne, je ne prête rien. Tu me le casses après, tu me l'abîmes, qu'est-ce que je vais faire avec? Non, là, c'est vrai, j'ai un caractère comme ça. Je t'aide pour l'autre chose, mais prêter mes habits et tout, non, je ne suis pas d'accord.
Et là, vous faites le photo en Wallou?
Non, ma chez nous, on ne fait pas le foutin. Jaya, on ne fait pas le foutin. Mais maintenant, il y a des robes à l'ingérer avec le foutin. Ouais. Moi, je te dis la vérité, monsieur. J'achetais une robe et j'ai mis le foutin. C'est grosse, après, c'est tout le taureau. Non, le foutin, ça fait grossir. Alors, j'ai fait la ligne, monsieur, regarde. C'est le cas. Mais c'est toujours pareil comme ça. C'est un petit gêne, c'est comme... C'est ça, il est passé une dame maintenant, il m'a donné un papier pour vendre la maison. J'ai dit, madame, j'ai dit, moi, ma maison, ça ne se vend jamais. Jusqu'à ma mort, après, les gosses, ils font ce qu'ils veulent. Il m'a dit, madame, mais tu vas rester longtemps. J'ai dit, j'espère. Oh là là, mais maintenant. Qu'est-ce que tu veux, c'est bien de rigoler, mon fils. On a plein de problèmes. Un côté notre problème, on ne fait rien de bon sortir. Alors, quand on trouve les amis, on trouve le monde pour changer les idées, il faut parler, il faut rigoler, laisser les choses, les problèmes de côté. Voilà.
Qu'est-ce que vous allez dire aux femmes que...
Moi, j'ai dit les femmes que je connais, les femmes qui sont tristes, qui ne bougent pas. Là, il y a la fête, il faut qu'ils vendent à la fête. Ils trouvent la musique bien, ils se lavent danser. Ils lavent le zaf, après ils retournent chez eux. Ah, moi, j'ai dansé. Hein. Moi, tu sais, monsieur, je suis semi gamelle. Hein.
C'est l'égyptienne.
Ah, l'égyptienne. Je te jure, avant, hein, mais maintenant...
Vous regardez beaucoup de films égyptiens, alors?
Non, je ne regarde pas. Enfin, j'attends la musique, oui. Je regarde la musique, oui. La musique, je l'attends beaucoup. Je danse avec et tout. Voilà.
Vous maîtrisez bien l'arabe, vous parlez le berbère et le français aussi.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas donné à tout le monde.
Ah oui, je parle l'arabe, je parle français. Je dis, j'y vais au bout du monde, je reviens toute seule. Je ne me trompe pas. Je ne me perds pas, là, comme on dit. Je retourne même, je reviens entière. Hein.
Et vous sortez de temps en temps avec des associations comme Sheba?
Oui. J'ai sorti beaucoup avec Sheba, on est parti de partout. Ils nous font les soirs aussi bien, comme il faut, grâce à Sheba. Hein. Le jour qu'ils ont commencé Sheba, ils ont ouvert Sheba.
Et qu'est-ce qui te ramène le soir?
C'est Fatima. Mais Fatima Migné, je suis toujours la pauvre, la directrice. Et me dit, madame, c'est ben oui, n'aie pas peur, je t'amène jusqu'à la maison, jusqu'à ce que je rentre pour qu'elle m'amène. Oui. Mais Fatima Migné m'amène beaucoup le soir, Tara. Oui. Toi, tu m'amènes les fêtes de la journée. Mais à l'tard, il m'amène. Voilà. Et moi, j'adore les fêtes. J'adore la fête. Même si je suis malade, monsieur, quand j'attends la musique, plus fort dans moi, j'oublie tout, il faut que je me lave. Il faut que j'y danse, j'y fais l'ambiance. Voilà. Mais dans la tête, dans le sang, je crois.
Vous restez jeune dans la tête, quand même.
Oui, oui, oui. Ils me disent, madame, c'est ben oui, tu vieillis pas. J'ai dit, moi, je reste toujours pareil. Même je marche avec la canne, quand il y a la musique, je me lève danser.
Thank you. أم كلثوم.
اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي علي اللي شفته
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Galère au 88.4 avec la compagnie des Haraga. Sidir qui vous parle. Restez avec nous jusqu'à 18h. Il y aura un autre mémé puisque c'est la fête des mères bientôt. On vous régale avec les histoires de mémé.
Tu savais qu'est-ce que j'ai fait, Flufluka? J'ai chanté Flufluka, j'ai chanté Raïdoura. Oh non, non, Raïdoura. Il m'a dit, Madame Akoshi m'a dit, Raïdoura, à l'Égypte, il chante Kabyle. Et tout le monde dans Flufluka, il danse. Tu as vu, j'ai tapé de Derbouka. Elle a fait Hala. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le monsieur, là, le guide? Le guide. Il m'a dit, Madame, vous êtes formidable, là. Heureusement, vous êtes là. Wallah, j'ai pas, j'ai fait le clown, j'ai fait le sketch. Mais je sais pas chanter maintenant. Aïma, souya, sabernos, aïma, souya, sabernos, aïma, yikna l'hanni, aïma, yikna l'hanni, l'hbabi, chatan, machi, dros, l'hbabi, chatan, machi, dros, waït, ranni, waït, chata, waït, ranni, waït, chata, ah la la, la 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 la. Ah la la, la 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 la, ah la la, la 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 la, ah la 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 la. إحنينا بس قلبي إحنين ما في تعرفني ديزاني تكونين نعرفكم هكذا صغار كاملين كمان. أيوي نشانج باك يكونوا إحنين ما في غيست حنان. Oui, le bon Dieu, il me laisse. Au fur et à mesure, j'ai fait plus. Il me dit, ma fille, mes filles, mes gosses que je connais, madame, c'est pas où c'est trop. J'ai dit, moi, je change pas, je reste toujours pareil, j'ai fait encore plus. Mais le bon Dieu m'a donné comme ça, on peut pas changer. Ma mère, la pauvre, elle a resté là. Il y avait un homme pour m'arranger la télévision parce que j'ai fait le frais, la musique arabe. Il est venu pour m'arranger la télé. Alors, la pauvre, elle est restée là. Il parlait avec lui. Il m'a dit, ya binti. Il m'a dit, il parle l'arabe et il ressemble à un arabe. Lui, c'est un français. J'ai dit, il est marié avec un arabe, maintenant, il est moitié-moitié. Il rigolait, il rigolait, lui, il rigolait. D'un coup, il a fait, j'ai dit, oui, là, dans cette place où il y a le cas. J'ai dit, si un bassin, ma mère, elle est morte. Elle est morte. Il m'a dit, non, elle n'est pas morte, elle dort. Parce que lui, il travaille avec les gens âgés. Les gens âgés, ils sont en France. Ils restent avec nous. De temps en temps, tu le vois, il dort. Ouais. Oui. J'ai dit, non, ma mère, jamais, elle dort jamais. Après, il avait, c'est sérieux. Il a laissé la télé. Il a fini, il est venu, il a fait le premier soin. Parce que lui, il travaille avec les vieux. C'est un fermier. Après, il m'a dit, madame, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est sérieux. Allez, où est l'adresse de la maison? Parce qu'il est si vénère, mais l'adresse, je ne sais pas. D'un coup, ça, il est venu le salut. La maison était pleine de salut, les docteurs et tout. Lui, le pauvre, il a aidé aussi, il les a aidés jusqu'à l'emmener. Après, c'est une femme docteur. J'ai dit, docteur, s'il vous plaît. J'ai dit, c'est ma mère. Il m'a dit, il est que pour toi, quoi? J'ai dit, c'est ma mère. J'ai dit, il est venu de l'Algérie, ça fait 4 jours. Oui, c'est le 5e jour. Oui, 4 jours. J'ai dit, il va s'en sortir. Il m'a dit, non, madame. Il m'a dit, il s'en sort pas. Il m'a dit, c'est la vie ici. Il m'a dit, il s'en sort pas. C'est un caillou, ça qui monte à la tête. Après, il m'a dit, on l'amène à l'hôpital pour faire les examens plus fort. Il les a amenés, on est parti, on a suivi. Mes amis, ma femme, mes petits-enfants, mes enfants, tout le monde. Il a resté mon fils jusqu'à 8 heures. Il y a une fille, il n'a pas vu. Puis qu'il est venu de l'Algérie, il n'a pas vu sa fille, Saléha. Zirane, il attendit sa fille pour mourir. Regarde. Il dit, il faut qu'il la voie. Après, quand elle est venue, ma soeur, parce qu'elle a travaillé, ils n'ont pas dit ta mère, elle est dans le coma. Jusqu'elle finit le travail, elle est venue, elle a dit, tiens, elle a trouvé la salle comme ça pleine. Elle a dit, oui, elle est ma mère. J'ai dit, elle est dans le coma. J'ai dit, vas-y, maintenant, la voir avec, parce qu'on rentre un tour chacun. On ne rentre pas tout le monde ensemble. Il est rentré avec son fils. Il a dit, à peine j'ai rentré, il est branché de partout. Il m'a dit, je vois la machine comme ça, il commence à descendre le cœur. Il m'a dit, son fils, aïe, maman, tu as vu son cœur, il commence à baisser. Il m'a dit, je l'ai attrapé, je l'ai caressé. Il a dit, maman, c'est moi, ça n'est pas, je suis venu te voir. Il a dit, d'un coup, le fils avec, il a fait, parti. Il est sorti, il nous a dit, ça, il est mort, ma soeur la plus jeune. Il a crié, il a pleuré. Et pourquoi je n'ai pas resté à côté de sa tête? J'ai dit, c'est que j'agère. Puis ce matin, on est à côté de sa tête en rentrant ça. Il attendit sa fille, il ne cherche pas à comprendre. Il attendit sa fille, il a vu sa fille, il est parti tranquille. Voilà. Comme il a dit, le beau-fils, le pauvre. Il a dit, ma fille, ne cherche pas à comprendre. Ta mémé, elle est venue me dire au revoir. 4 jours, mon fils, 5e jour, il est dans le coma. Il est en bonne santé. Il est bien, tu le vois, tu ne donnes pas son âge. Il a sa tête, il parle bien, il ne prend pas des médicaments, il ne prend rien que maintenant peut-être un cachet pour la tension, pas plus. Hein. Il a monté un peu la tension. Il se rappelle de tout, de tout, de tout, de tout. Il fait son manger tout seul, il frotte tout seul. Il a 94 ans. 94 ans. Hein. Mais il est resté belle, hein. Je te jure, tu le vois, très belle. Hein. Ouais. Même quand elle est morte dans le chose, dans le cercueil, je te jure, mon fils, on dirait que c'est un ange. Tellement qu'elle est belle. On ne veut rien que regarder, même les gens ne veulent rien que le regarder là-bas. Mais qu'est-ce que c'est la fille bien sortir? Jamais elle a fait de mal, ma mère. Même quelqu'un qui lui fait de mal, elle ne répond pas. J'ai dit, maman, quelqu'un qui te fait de mal, répond. Elle m'a dit, j'ai le bon Dieu, il va le répondre à ma place. Allah, ma fille, fait comme ça là-bas. Mais elle est morte comme la rosa, tranquille. Propre, il est parti propre. Voilà. Et il n'a pas souffert. Eh oui, au Jeff, parce que nous on habite tous ici, ses filles, ils sont tous là. Et mes enfants, nos petits-enfants, ils sont mariés, ils ont des gosses et tout. Et il a tout vu là, tous les petits-enfants, derrière petits-enfants. Et mon beau-père, mon beau-fils est parti à l'Hijj. Et il est arrivé samedi, mon beau-fils est arrivé dimanche. Et il est parti jusqu'à Marignan pour le voir l'arrivée de la Mecque. Elle était contente, il avait le monde, il avait tout. Elle était contente, elle a fait les photos avec mon beau-fils. Il a embrassé, il a fait ça. Il a dit, ma fille, cette photo, qui me la sort, je l'ai mis le cadre chez moi. Comme ça, j'ai dit, regarde, je suis parti voir le beau-frère de ma fille. Il est revenu de la Mecque. Tout ça, c'est pas bien? Ça fait bien? Il a vu pendant 2 jours, on était chez ma fille, il y avait le monde et tout. Ma soeur, elle a dit, maman, je t'emmène chez moi. Elle a dit, ma fille, chez toi, il n'y a personne, je veux voir le monde, je venais pour voir le monde. Et parti comme ça. Ouais. Alors, ma mère, ma soeur, ma fille, alors, comment le moral qui revient normal? Moi, tous les jours, monsieur, je parle toujours avec elle et je parle avec ma fille. On dirait qu'ils sont avec moi. Le soir, la journée, toujours, je parle avec carrément, je parle de ma mère, on dirait qu'ils sont avec moi. C'est grave. Mais ils sont avec moi, ils sont avec moi. Mais Allah, jamais je les ai. Même la nuit, je venais pour dormir. Je parle d'eux. Et tout, après, je dors, je dis Allah, comme ils sont allés. C'est tout. C'est dur, mon fils, c'est dur. Hein. D'arriver à l'âge, à mon âge et tout ça, c'est pas facile. Hein. Surtout la mort. Tout, on trouve le remède. Mais le remède de la mort, il n'y en a pas. Pour calmer, pour que l'on ait bien. Rien que Dieu là, nous donne le moral, c'est tout. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien pour ça. Alors, je vous ai parlé de tout. Et c'est des choses vraies. Hein. Ce n'est pas d'histoire, c'est une vraie histoire. Ah ouais, avec moi, quelqu'un qui reste avec moi, il voit toujours le bonheur sur terre. Et les gens qui rentrent chez moi, Wallah, ils trouvent tous le bonheur. Tous le bonheur. Parce que le Nassafi, mon fils, ça fait. ننهي غير الخير ندخل غير بالخير اللي يدخل داري شاب المتاعي ناقل بونور توت سافي ان شاء الله اي بوا علي بوا كول انكور علي
اون فا فار لي فوتو ماتان
علي اون فا فار لي فوتو علي سي بريت لي في
Et voilà, c'était la voix de madame Sebaou Baya qui est décédée, bien sûr, on lui rend hommage. Donc vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de chansons égyptienne, c'est ce qu'elle demandait. Elle aimait beaucoup la musique égyptienne, le chant égyptien, pas les films, hein, ce qu'elle me disait. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de chants égyptiens pour lui rendre service. Automatiquement, je devais faire des chansons kabyles, mais comme elle m'a dit, il me faut des chansons égyptiennes, arabes en général. Donc je lui ai choisi Oum Kulthoum. Juste après, vous allez écouter un autre monsieur qui va raconter cette fois-ci sa grand-mère, Nouassali. Elle va raconter sa grand-mère comme une icône. C'est une maman qui a sauvé l'Algérie pour lui. Donc vous allez l'écouter dans un moment. Restez avec nous. Il est 5h01 sur les ondes de Radio Galère avec la compagnie des Haragas.
Moi, ça ne me fait rien du tout. Je suis algérien. Je reste algérien. Hein? Même il dit c'est un immigré. Il nous a, ainsi jamais, ils disent parce que c'est un immigré. Moi, je suis dans ma maison. J'ai fait mes commissions, je rentre chez moi. C'est pas vrai? C'est ça? Ah oui. Un immigré partout. Même l'Algérie, ils nous appellent immigrés. Hein? J'y vais au magasin. Ils me disent, je parle en kabyle, je parle en arabe. Les gens qui parlent kabyle, je parle kabyle. Les gens qui parlent arabe, je parle arabe. Après, il m'a dit, madame, vous n'êtes pas d'ici. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, vous êtes immigrée. J'ai dit, pourtant, je ne suis pas maigre. Il m'a dit, immigrée, je ne suis pas maigre. Et pourquoi? Il m'a dit, parce que vous avez un bon cœur. Vos paroles, ils sont très gentils. C'est pour ça que vous connaissez, vous n'êtes pas d'ici. J'ai dit, les gens d'ici, il m'a dit, les gens d'ici, ils n'ont pas de cœur comme vous autres là-bas. Wallah, ils disent toujours comme ça. Hein? Ouais. Après, il me dit, madame, quand je passe dans les magasins, moi, j'y tchatche, je parle avec tout le monde. Et le magasin, il est plein comme ça. Et quand je passe pas deux jours, trois jours, il me dit, eh, tu n'es pas venu, ils ne sont pas venus les clients. J'ai dit, ouais, tu crois que tous les jours, je passe chez vous? Wallah, c'est vrai. Arbehdina. ربي عطينا العقل والصبر ان شاء الله كي نودون المورال جوسكا نوتر مور سي تو كي جو دوماند دو ديو وما الغيس سا بار سا فيان سا بار سا فيان مي نو كانتام بار روفيان بلو سي شومان تر لوان 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 سا روتو ديو كي سيغ افيك الموند انتيغ كي نودون المورال اي لا سانتي سي تو كي جو دوماند Non, j'ai pas fait, j'ai parlé tout seul. Comme ça. Parce que mon mari, il est réécrit. Moi, je suis venue jeune. Après, j'ai fait les bébés une derrière l'autre. Je n'ai pas le droit d'aller à l'école. Il m'a dit, à l'école, j'ai dit, mon mari, s'il aura écrit, je ne croyais pas qu'il va mourir, qu'il me laisse. Après, le pauvre, il est mort. Après, c'est Karima qui remplace. J'ai mes filles aussi qui s'occupent, mais après la parole. Je peux y aller à l'Amérique et je reviens. Sans l'accompagner. Pour en parler, je parle bien. Je me débrouille partout, je parle avec tout le monde. Ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Quand t'en parles, pas, on trouve pas le chemin. Quand t'en parles, tu passes sur le chemin.
Et voilà, hommage à Madame Sebaoui qui est décédée il n'y a pas longtemps.
Il voulait finir ses études, donc il est venu en France. En 1976, mai 76, il a fini ses études ici. Après, il a rencontré ma mère, il s'est marié et il est resté en France. Il a eu deux enfants. Je suis né dans un petit village dans le département 47. Voilà, j'ai fait mes études en France, bac plus 3, et je suis directeur d'un centre d'animation et de loisirs. Mon père était, on va dire, il avait un esprit critique. C'était quelqu'un très démocrate. Donc, il faisait les allers-retours entre l'Algérie et la France et il a préféré rester en France. Pourquoi il a choisi de rester en France? Parce que il s'est senti un peu plus libre que de rentrer en Algérie dans les années 80, l'arrivée de l'islamisme et tout. Donc, il préférait vivre sa vie librement en France. Ensuite, c'est un parcours normal. Il a créé son entreprise. Il a abandonné le droit. Donc, il a créé son entreprise, communication, publicité. Il a réussi. Il a acheté un appartement, il a beaucoup voyagé, et maintenant il est à la retraite. Et moi ici à Marseille, où j'ai fait mes études après mon bac, et après je suis rentré dans la fonction publique. Ma grand-mère est une Algérienne, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, elle a fait du ménage. Après, elle a fait la guerre, on appelle la Moudjahida, et c'est une femme qui est jusqu'à maintenant contre la France. Elle n'a jamais mis les pieds en France. Elle se dispute avec mon père. Elle est restée vraiment à l'ancienne. Patriote, oui. Et elle pense, elle se réveille, elle dort avec l'Algérie. On l'appelle FLN 100%. Dans sa bouche, il n'y a que le FLN. Donc elle a grandi avec ça et elle s'est battue pour ça. Et peut-être elle mourra avec le FLN. Pour elle, l'Algérie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est sa vie, c'est son amour, c'est une histoire pour elle. Et elle n'a jamais accepté de venir en France. Elle voyage dans le Maghreb, elle va beaucoup en Égypte, mais jamais la France. Mais on comprend pourquoi. Quand on va, elle nous accueille toujours bien, on a une maison là-bas, mais elle nous dit, il faut revenir chez vous, c'est l'Algérie, on s'est battu pour vous. Voilà. Je me rappelle de ma grand-mère dans les années 90, quand il y avait la période de la décennie noire, et ben, quand on lui a demandé de quitter l'Algérie, elle a dit non, il faut se battre. Voilà. C'est une femme qui sait pas lire, qui sait pas écrire, mais qui ne porte pas le voile, qui parle français et qui parle arabe. Si vous êtes avec elle, elle va vous parler normalement, mais elle est bloquée dans son analyse. Il faut jamais abandonner l'Algérie. Elle dit c'est haram pour elle. Elle fait la prière, elle fait le ramadan. Et elle n'accepte jamais que quelqu'un critique sa nation. Son pays. Pourquoi jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas compris. Elle peut être contre moi, contre ma sœur, parce qu'on est né en France. Pour elle, on est né dans un pays qui a fait beaucoup de mal à sa nation, donc elle n'arrive pas à l'accepter. Jusqu'à maintenant, on se bat. Elle a 89 ans. 89 ans, et elle parle comme ça. Elle fait la prière, mais elle ne porte pas le voile, mais elle se dit, c'est comme ça, il faut revenir chez vous. Elle va à la plage, elle parle avec les jeunes, elle se réveille le matin, elle va acheter son pain, elle fait ses courses normalement. On appelle mamie l'indépendante, Fulbière, et c'est comme ça. Mais les gens ne savent pas qu'elle ne sait pas lire et qu'elle ne sait pas écrire, mais elle est acceptée par tout le monde. C'est bizarre ça. Et elle nous a toujours dit, chez vous c'est l'Algérie, si un jour vous avez mal, il faut venir, elle appelle votre mère. Vous seriez toujours accueilli par votre pays.
Et comment elle a vécu la décennie noire ?
La décennie noire, alors pour elle, c'est une main étrangère, la France, qui voulait déstabiliser l'Algérie. Ma grand-mère, il ne faut pas lui parler du mal de Boumediene, de Zahrouel ou de Bouteflika. Elle adore Bouteflika. Elle l'a vu quand il avait 25 ans, je crois, il était ministre. Et pour elle, il a beaucoup apporté à l'Algérie, il l'a libéré. C'est le libérateur de l'Algérie. Je l'accepte. Il faut lui rendre hommage, elle parle comme ça, donc il n'y a aucun souci. Mais ma grand-mère, c'est une femme qui réfléchit et qui a vu ses enfants mourir pendant la période de la guerre. Elle a vu ses voisins mourir. Elle a aidé les Moudjahidines à l'Arba'a vers Rafigo. Elle parle comme ça. Elle est montée dans les montagnes de Bushra Hill. C'est bien ça, Média. Donc elle nous raconte, je connais l'histoire par cœur. Et elle a aidé beaucoup de femmes et d'hommes Moudjahidines. Ma grand-mère elle a refusé d'avoir la location des Moudjahidines. Pourtant, ils sont venus la voir. Il y avait des témoins. Mais elle a refusé ça. Pour elle, elle a fait sa fissabilila, comme elle dit. Elle a son appartement qu'elle a acheté. Mon père l'a aidé, ma mère l'a aidé, mais elle n'a rien obtenu de l'État algérien parce qu'elle réclame rien.
Thank you. الغافل وطرا حدرك لا تبي يكسر
مثل الناس طول الكلام والحيط بودني
خبي سرك يا الغافل وطرا حدرك لا تبي يكسر مثل الغير
الناس طول الكلام والحيط بودني الحمى الكل دارو هذا الهدى يقول جارو كل واحد زاد في خبارو بقوى الكثير القلوب القاس حين غارو نروح القاع عليك حارو واحد ولا استحاب عارو رما وكبير ما ردوا عليك السلام هاد الشي كلك وحرام دوام يتقب الرخام والحاسد خضير
خبي سرك يا الغافل وطرا حدرك لا تبي سرك لا غير
الناس طول الكلام والحيط بودني
خبي سرك يا الغافل وطرا حدرك لا تبي سرك لا غير
الناس طول الكلام والحيط بودني كل ما قرا حسابو دار الامان في صحابو حتى فرغول وجيابو ورجع فقير استغلوا بيه في غيابو قالوا خليوه في عذابو انسانوه هو سبابو تقول صابي صغير ندم ما فاتش ندم كان جديد فنا ولا قدام نهار طوال فيه عام وهمو يكبر
Elle est comme ça, elle vit pour elle. Durant la période de la décennie noire, elle était prête à aider le pouvoir. Pour elle, il y avait quelque chose qui était dangereux pour l'Algérie, qu'il fallait encore une fois prendre les armes. On ne l'a pas laissé faire. C'est une femme indépendante. Voilà, pourtant... On va dire, elle a un savoir parce qu'elle parle à tout le monde, un savoir oral. Elle a fréquenté beaucoup les Moudjahidines et elle connaît leur histoire. Et quand elle parle d'eux, c'est, on dirait que c'était une histoire qu'elle a vécue hier. On n'arrive pas à oublier ça. Et elle n'a jamais pardonné à la France, je pense qu'elle pardonnera jamais. La France coloniale. Mais elle refuse toujours de venir ici. Là, il y a le mariage de ma deuxième sœur, mais elle ne viendra pas. Il faut se marier en Algérie pour elle. C'est comme ça. Je vais une fois par an passer mes vacances, un mois et demi. Chaque année, je vois une amélioration. Pas dans la vie quotidienne économique de la population algérienne, qui est catastrophique, hein, mais les jeunes se battent pour vivre, pour survivre. Mais la mentalité change. Si vous allez dans les grandes villes, même dans l'Algérie profonde, parce que l'Algérie, l'avantage qu'on a, on a des femmes qui se libèrent. La jeunesse algérienne d'aujourd'hui, c'est une jeunesse instruite. Certes, elle est démoralisée, mais elle veut construire son Algérie. Je pense que c'est une jeunesse démocratique, qui ne s'intéresse pas vraiment à la religion, qui ne s'intéresse pas vraiment à l'économie. Elle veut construire l'Algérie de demain et elle pense à ses enfants, les enfants qui vont naître après-demain. Je pense que la génération qui va arriver, ça va être une génération magnifique pour l'Algérie. Une Algérie nouvelle, une Algérie démocratique où la femme aura sa place. Je parle beaucoup des femmes parce que je pense que c'est la femme qui peut libérer l'Algérie. La femme. Les hommes ont tendance à baisser les bras. On est comme ça nous les hommes, on laisse faire. Mais la femme, elle se bat pour réussir. La femme fait des enfants, donc elle va penser automatiquement à ses enfants. Elle va se dire, si l'Algérie reste comme ça, mon enfant vivra mal. Et elle se battra pour faire de l'Algérie une Algérie ouverte. On ne va pas parler d'une Algérie puissante, on est encore loin. Mais une Algérie ouverte qui se respecte et qui respecte sa population. la femme va prendre le pouvoir en Algérie et elle changera beaucoup de choses. J'en suis sûr et certain, je le vois dans les plages, dans les piscines, dans les cafétérias, dans les rues, je le vois dans les boîtes de nuit. Il y a beaucoup de femmes qui sortent. Vous allez à Alger le soir, vous allez à Oran, à Naba, Constantine, la ville la plus conservatrice, les femmes s'endorment le soir. Je parle de Constantine. Vous allez aussi à Tlemcen. J'ai été le mois dernier, une semaine, et j'ai vu des femmes se balader à minuit dans les rues qui ne portaient pas le voile. Et j'ai vu des femmes qui disaient non à des hommes. Quand un homme siffle à une femme, elle regarde « Washbik ». Elles tiennent tête. C'est des femmes, c'est des jeunes femmes instruites. Vous allez dans les facs, dans les universités algériennes, c'est plus de filles. Vous allez dans les collèges, c'est plus de filles. Elles réussissent parce qu'elles se battent. Vous avez des filles de 13 ans, 14 ans, elles ont compris qu'elles doivent étudier pour réussir. C'est leur avenir qui est en danger. Dans ma famille, il y a une fille, la fille de ma sœur, elle a 13 ans, elle dit « j'ai pas besoin d'un homme pour me nourrir ». Pourquoi ? Parce qu'elle entend sa mère parler comme ça. Le mari de ma sœur, une fois, lui a dit « on va divorcer », elle a dit « d'accord ». Ils n'ont pas divorcé. Mais il n'y a plus cette menace comme avant. Où le papa gère sa femme. Donc, il y a une égalité qui est en train de naître entre la femme et son époux. Je parle de que je dis, avec tout ça, la liberté de la femme algérienne, les libertés qui sont en train de naître en Algérie, grâce à la femme, je pense qu'on va avoir un avenir meilleur. Je suis très confiant. Je le vois avec la réussite des femmes. Dans les entreprises, dans les universités, dans les rues, vous allez dans les plages algériennes, vous allez trouver plus de filles, plus de femmes maintenant. Et ce qui me plaît, c'est qu'elles arrivent à dire non à l'homme. Et c'est ça. Donc, je suis confiant de ce qui va se passer là-bas prochainement.
Alors, vous parlez beaucoup de femmes. Certes, la femme, c'est l'avenir de l'homme. Quelle est la femme qui vous a marqué en Algérie ? Que ce soit politique, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, que ce soit dans...
Alors, il y a une femme qui m'a marqué, je ne me rappelle pas de son nom. Peut-être c'est Laila Aslaoui. C'est elle, ça me revient. Son mari l'a été assassiné. Je crois que c'était un dentiste. J'étais ado. J'étais en vacances. Et j'ai entendu mon père parler d'elle. Et elle était ministre. Et je l'aimais la voir à la télévision. Très instruit, j'aimais beaucoup ses paroles. Et je l'aimais aussi avec Soraya Bourmama. Elle était journaliste. J'aimais leur manière de faire, leur manière de parler. Et ces deux femmes m'ont beaucoup marqué. Laila Aslaoui m'a beaucoup marqué. Et le journaliste, la journaliste aussi qui m'a donné envie de regarder la télévision algérienne, à l'époque, la décennie noire, c'était Soraya Bourmama. Parce que je me suis dit, c'est une femme qui se bat. Elle se montre. C'était une période dangereuse pour elle. Mais elle était là chaque 20 heures. Il y avait aussi juste avant elle, Zahia Benarous. Maintenant, elle est devenue femme politique. Je le regrette. Elle aurait dû rester journaliste. C'est une femme qui pouvait se battre et montrer l'exemple aux femmes journalistes. En fait, il faut rendre hommage à toutes les femmes algériennes. Durant la décennie noire, elles n'ont pas abandonné l'Algérie. Tandis que nous, les hommes algériens, beaucoup, y compris de ma famille, ils ont préféré fuir l'Algérie. La femme, elle est restée. Elle se réveillait pour aller travailler. Elle réveillait ses enfants pour aller à l'école. Elle sortait le soir, elle allait faire les courses. Elle n'avait pas peur. Pourtant, c'était la première femme, c'est les femmes algériennes. Elles ont subi le terrorisme, elles ont été égorgées. Pourquoi on a attaqué vraiment les femmes ? Parce que les islamistes, ce qu'on appelle les terroristes, ont compris qu'ils allaient perdre parce qu'il y avait la femme algérienne qui disait non, tout simplement.
Alors, Mehdi, par rapport au Maghreb, puisque l'Algérie, à côté, il y a le Maroc, de l'autre côté, il y a la Tunisie, je parle les voisins, les pays voisins, qu'on a plus de mariages mixtes, qu'on a plus de familles entre eux. Et comment vous voyez l'Algérie entre ces deux pays ?
Alors, je m'inquiète beaucoup pour la Tunisie. Malheureusement, c'est un pays qui a fait une révolution saine. Ils ont demandé une démocratie. La démocratie, ils l'ont eue. Mais on voit bien ce qui se passe maintenant, c'est le retour de l'islamisme. C'est la Tunisie avant Bourguiba. Et ça va faire très mal pour la Tunisie. Je ne leur souhaite pas ce que nous, Algériens, on a vécu. Pour le Maroc aussi, le Maroc est en train de jouer un jeu dangereux, le Sahara occidental et tout, mais ils oublient le problème interne, le retour de l'islamisme. L'Algérie, on n'a pas ce problème. Les partis islamiques n'existent pas pratiquement, ils ne gagneront jamais le pouvoir. Nous, on a les partis laïcs, on a les partis, on a des femmes qui président des partis politiques, donc on a un avenir stable. Et on a une Algérie tournée vers l'avenir, qui est stable institutionnellement. On entend beaucoup parler, oui, le pouvoir, le... non. C'est, il faut juste se battre maintenant pour arriver à avoir, à arracher la démocratie. N'oubliez pas que le 5 octobre, c'était marquant pour nous, c'était la naissance de la démocratie algérienne. Il ne faut pas qu'on oublie les martyrs, de la, si je peux appeler ça, les martyrs de la démocratie. En Algérie. Je ne m'inquiète pas pour l'avenir de l'Algérie, parce qu'on a des femmes, et l'avantage de l'Algérie, c'est qu'on a les femmes amazigh, les kabyles et tout, donc elles vont jouer un rôle, elles n'accepteront jamais l'échec de l'Algérie. L'Algérie ne sera jamais afghanisée, et on ne va pas vivre ce que les Syriens, malheureusement, vivent actuellement. On va aller vers l'avant, c'est sûr et certain.
Alors, on revient maintenant à Mehdi, qui vit en France. Mehdi qui est marié, Mehdi qui a des enfants. Parle-nous un peu de votre formation. Vous avez fait quelle formation ?
Moi, je voulais devenir assistant social. J'aime bien le social. J'ai mon bac, j'ai passé le concours, je l'ai eu. J'ai l'oral et l'écrit. Après, j'ai passé le concours de la fonction publique, rédacteur. Je l'ai eu. Et je suis fonctionnaire maintenant, territorial. J'ai un bon salaire, une bonne situation. Et je travaille normalement. Une vie normale. De 10h à 17h, en tant que directeur de centre socioculturel, ça marche bien pour rien. Pour moi, pardon. Mon épouse, elle fait des études de droit jusqu'à maintenant. Elle a réussi et elle travaille dans une association pour le droit des femmes, au Maghreb, tout simplement. Donc, on a une vue normale, chacun sa vie, et voilà. Donc, on ne parle pas politique chez moi. Parce que moi, j'ai une opinion, elle a son opinion, et on n'a pas de problème. On vit en harmonie. Voilà, donc ça va rester comme ça. Ça fait 5 ans et ça marche bien.
بلادي هي الجزائر وعليها وراني حواير وبغيت نروح لها صاماير هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو والله ما نسيت عني بالغالية سنطين وسطيف العالية باليدين نارها في قلبي قد يلها هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدرت عنو هو الفك كيف سهل وفريقك ما قدرت عنو
Le retour de Chab Mami.
بغيت اول بصمايل بغيت نروح العزم ومرايا هو لفت كيف سهل وفلافت هنا قدرت عنه هو بغيت نروح العزم ومرايا هو لفت كيف سهل وفلافت هنا قدرت عنه هو لفت كيف سهل وفلافت هنا قدرت عنه هو لفت كيف سهل وفلافت هنا قدرت
critique beaucoup et stigmatise beaucoup la jeunesse. Le problème, c'est qu'on ne leur fait pas confiance. Et les institutions ne font pas confiance à la jeunesse issue de l'immigration. Que faire? Il faut que cette jeunesse se prenne en main. Où sont les associations pour aider ces jeunes? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Les partis politiques, cette jeunesse doit s'engager dans les partis politiques pour réussir, pour changer l'image. Que font nos autorités? Je parle algérienne, tunisienne, marocaine, nous sommes complètement abandonnés. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas d'association pour protéger, pour parler au nom des jeunes. Aujourd'hui, si un jeune qui est assassiné, c'est un jeune assassiné. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce jeune a été assassiné, pourquoi peut-être il a travaillé dans la drogue. Il faut chercher, il faut trouver l'excuse, tout simplement. Moi, ce que je demande aux autorités, il y a eu Samia, il y a eu Noura, il y a eu pas mal de jeunes issus Mouloud, il y a eu pas mal. Ils sont arrivés à des places importantes. Ils n'ont rien fait pour la population issue de l'immigration. C'était pour eux. C'était pour eux. Donc, si ces jeunes arrivent au pouvoir, avoir des places politiques, ils doivent penser à leurs frères et sœurs. Parce que moi, ce qui me déçoit, les gens qui ont eu ces places n'ont rien fait pour la communauté. Je n'aime pas le mot communauté parce que nous sommes nés en France. Mais ils ont fait en sorte qu'on soit entre nous. Ils nous ont divisés. L'erreur, c'est nous élus, issus de l'immigration. Là, je parle de Noura, je parle de Samia, je parle de Mouloud, de Miloud. Ils n'ont rien fait pour nous. Rien. Ils sont arrivés. Ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir. Conseiller municipal, conseiller d'arrondissement. Mais ils n'ont rien fait pour nous. Ils n'ont rien fait pour la jeunesse. Vous allez les voir, ils vont vous dire oui, on va faire. Rien. Ni formation. Ni stage, ni appartement, ni aide au travail, rien du tout. Que des promesses, ça fait 20 ans que ça dure. Il est temps que les jeunes s'engagent politiquement. C'est eux-mêmes qui peuvent changer les choses. Il ne faut pas attendre des autres, on n'attendra rien. À eux de se lever, de s'inscrire sur les listes électorales et de s'inscrire dans les partis politiques, se présenter aux élections et d'arriver au pouvoir. Ah, moi, quand je leur parle, je leur dis à vous de changer les choses, n'attendez rien des autres, engagez-vous politiquement. La solution, c'est ça. S'ils n'ont pas de diplôme, il faut faire des formations. N'allez pas dans le gain facile, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un avenir, ça. Mais la solution, il faut qu'ils s'engagent politiquement. Il faut arriver il faut rentrer dans la société. On est à l'écart, on est abandonné. On ne s'intéresse pas à la société. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas. Regardez, les Arméniens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Arméniens? Ils sont partout, politiquement, partout dans les entreprises. Les personnes d'origine israélite, pareil. Et nous, les Algériens, on est où? On ne s'est pas intéressé à ça. Et se présenter aux élections, même seul, une personne peut changer les choses.
Mais c'est le contraire, parce que moi, je vois beaucoup de jeunes, issus de l'immigration, qui préfèrent retourner en Algérie.
Moi, je suis contre ça. Maintenant, s'ils ont un savoir à apporter à l'Algérie, oui, je les encourage. Mais s'ils n'ont rien pour aller en Algérie comme ça, non, l'Algérie, elle n'est pas là pour... vous n'avez pas réussi en France, venez chez moi, non. L'Algérie a besoin de ses enfants nés à l'extérieur, mais avec des diplômes et tout. Il faut penser à l'Algérie de demain aussi. On ne va pas aller, tiens, je n'ai pas de diplôme, je n'ai rien, qu'est-ce que je vais apporter à l'Algérie? Si j'étais un jeune né en Algérie, je vais dire, attends, ils viennent de France, ils n'ont rien. Il faut que les jeunes restent en France et changent leur quotidien. On ne va pas déranger les jeunes en Algérie. On n'est pas des donneurs de leçons. Et d'ailleurs, on ne va pas en Algérie pour construire des boîtes de nuit. Ce n'est pas ça l'avenir. On va en Algérie pour construire des entreprises, des sociétés, pour apporter un savoir que la population algérienne peut en profiter. Je ne vais pas là-bas pour construire un restaurant. Où, moi, je ne suis pas comme ça. Les restaurants, les Algériens, ils peuvent le faire. Moi, j'ai un ami aussi. J'ai des amis qui sont partis à Oran, à Naba. Ils ont construit des restaurants. Certes, ils ont réussi, mais ils pouvaient le faire en France aussi. Moi, j'aime bien, moi j'ai un ami il a un bac plus 5, un médecin. Eh ben, il est allé là-bas, il a ouvert un cabinet musical. C'est son choix. Il a apporté quelque chose de bien aux Algériens. Il pouvait le faire ici, il avait les facilités. Mais il s'est dit, tiens, je vais aller là-bas et je vais l'ouvrir. Et il a réussi. Mais il est allé avec un savoir. Il faut encourager des gens comme ça. Mais je ne vais pas encourager un jeune pour ouvrir un restaurant en Algérie. Moi, je préfère comme ça. Je préfère aider la population. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, mon collègue? Il est en train d'enseigner des infirmières. Il faut améliorer les choses là-bas. On va pas pour... Ils disent que le peuple algérien, c'est un peuple de consommation. Certes, parce que c'est un peuple qui aime vivre. Les Algériens, un peu plus. Les Algériens, ils aiment la vie. Ils s'intéressent à la vie. Voilà, mais on va pas ouvrir des restaurants ou des taxis ou des... Non, il faut... Il faut ouvrir quelque chose qui sert et qui serve la population. Je pense que, par exemple, je vais vous donner moi. Est-ce que vous me voyez, moi, aller ouvrir une maison de un centre d'animation en Algérie? Parce que je suis directeur d'un centre socio-culturel. Non. Pourquoi? Il y a Dar Shabab en Algérie, de partout. Par contre, je peux créer une association pour aider ces lieux, les Dar Shabab, les associations, c'est tout. Voilà. Des partenariats. Mais je ne vais pas prendre la place d'un Algérien qui a besoin de travailler. Par contre, je peux donner l'idée, ce que j'ai fait. Vous pouvez créer des associations pour aider les jeunes. Mobilité réduite, il y a eu pas mal. Vous allez à Alger, Entaïa, Serkouf, Boumerdès, beaucoup de jeunes ont ouvert ça. Parce qu'ils regardent la télévision, ils se renseignent. Moi, j'ai beaucoup d'Algériens qui me font des mails, ils demandent des statuts, des projets. Je l'envoie par mail et eux, ils les développent. Tout simplement. Les Algériens, ils cherchent le savoir. Ils ne cherchent pas à manger toute la journée maintenant. C'est fini les années 90 où ils aiment s'habiller tout maintenant. Ils veulent construire leur pays. Voilà. Moi, je suis très confiant. Je reviens à la jeunesse née en France. Malheureusement, elle s'est laissée faire. Puis contre la marche des beurs comme dans les années 60, dans les années 80, c'est pas ça. Pour se battre, pour réussir, il faut s'engager politiquement. C'est ça la solution. Il faut arriver au pouvoir, comme les Arméniens et comme les Israéliens. Il faut se battre, comme ils ont fait les Italiens avant nous et comme les Grecs. Tout simplement, il faut dire, nous aussi on existe. Tout simplement, sans faire de bruit, on vote et on est candidat aux élections. Et on réussira. Pas parce qu'on s'appelle Mohamed ou Khaled ou... Non, on est tous pareils, on est égaux. C'est dans nos têtes tout ça. Vous avez un diplôme, vous pouvez réussir. Vous n'avez pas de diplôme, ben engagez-vous et faites des formations. Il faut enlever cette mentalité, gagner l'argent facilement. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça va amener à la mort ou à la prison. Vous allez dans les prisons à Marseille, c'est Boumette. Malheureusement, c'est que des Maghrébins. Ça fait mal au cœur. Mais si vous parlez à ces Maghrébins emprisonnés, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ben, je regrette ce que j'ai fait. Je sors demain, je vais faire une formation. Je vais revoir les choses de ma vie. La majorité ont fait ça. Vous allez à la Castellane, les jeunes qui étaient en prison 4, 5, 6 ans, ils vont vous dire j'ai fait une erreur. Ils préfèrent déménager, quitter Marseille, pour revoir leur manière de vie. Un changement radical, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire. Mon conseil, c'est qu'il faut avoir, il faut être confiant. Et on a l'avantage d'être algérien, tunisien, marocain et français. Il ne faut pas oublier nos origines. Il ne faut pas dire parce que je suis né, je suis arabe, je suis maghrébin, j'ai aucun espoir. Non, on peut gagner, on peut réussir. La bataille, elle n'est pas loin. Il faut juste qu'on s'engage politiquement et qu'on vote. Et on réussira.
Bah, Mehdi, merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
يا محل الجود المن والعطاء يا حديث لساني في الليل والنهار
Et voilà, il est 5h35, je vous laisse avec Ammar Zahi, le défunt, comme d'habitude. Mahl al-Joudi, j'espère que vous avez suivi mon émission, vous avez bien écouté, vous avez bien apprécié. Donc surtout avec Mehdi qui a raconté sa grand-mère,
qui a raconté la démocratie en Algérie, qui a raconté la, la liberté d'expression, qui a raconté sur les femmes qui sont libres. C'est son vu et c'est sa vue. Peut-être qu'il a un angle de vue plus moderne que nous, mais j'espère que les femmes sont libres en Algérie et j'espère qu'elles sont en politique. نقولكم بقاو على خير نقولكم نعطيكم موعد يوم الخميس كوم دابيتود تولي جودي à 16h تشاو 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 arrivederci بقاو على خير
لا تعذب روحي وارحمنا
Et n'oubliez pas, rester avec nous jusqu'à 19h avec Psychodébat, présenté par Hugo.
من هرب لخلافك لا تمنع حصول جل وعظم من كل ذنوب زلاتي مغفراتك واسعت كل ما يكون نفسي الأمارة بالسوء قلقا منزل غيثك من بعد لا اعتصار زيري وحبيبي وسيدي ابطا لا تجف عيوني النظر بجهار لا تعذب روحي جواهي منار ترحمنا بجاه فضلها